Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon esprit.
Alléluia. Les sept doctrines de base, les fondements de la foi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 6, versets 47 à 48. La Bible déclare que je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia! Dans plusieurs endroits de la parole de Dieu, la Bible compare la vie du croyant à un édifice, à une maison. L'apôtre Paul peut dire, par exemple, dans l'épître de Jude, au verset 20, « Vous édifiant vous-même sur une sainte foi. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 10, « Vous êtes l'édifice de Dieu, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. » Et il peut encore le dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alléluia! Donc, dans tous ces passages et dans bien d'autres, nous remarquons que la Bible compare la vie du croyant à un édifice, à une maison. Or, nous savons très bien que lorsqu'on bâtit un édifice, un immeuble par exemple, la première des choses à faire est d'abord de poser les fondements et de bien les poser. Et surtout, de bien les poser. Alléluia! Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison sur du vide ou sur du sable. D'où il est important, lorsqu'on bâtit une maison, de poser les fondements et surtout de bien les poser. En effet, les fondations faibles ne peuvent pas supporter un édifice. Je prends l'exemple d'un immeuble. Imaginez quelqu'un qui reçoit le permis de construire et qui doit normalement, selon le permis de construire, élever un édifice de deux étages, un immeuble de deux étages. Imaginons que cette personne, au lieu de lever un immeuble de deux étages, parce que peut-être elle voudrait un peu se faire de l'argent, voudrait avoir un peu plus de locataires, ajoute un troisième étage sur son édifice. Il est évident que, au fil des temps, avec l'usure, l'usage, l'édifice va s'affaisser et ne pourra résister longtemps aux intempéries et à l'usage dans le temps et dans l'espace. Donc finalement, l'édifice court un risque, le risque de s'écrouler, alléluia, et de causer des dégâts matériels, humains et peut-être même corporels. Donc pour éviter cela, il est important de respecter les principes réglementaires en matière de construction, en matière d'urbanisme. Parce que les autorités compétentes, lorsqu'elles vous délivrent une autorisation de construire, c'est parce que derrière, il y a des experts qui ont travaillé sur le terrain, qui ont travaillé sur les métaux que vous allez utiliser, le matériel que vous allez utiliser, afin de construire votre immeuble. Alléluia! Et il en va de soi, il en va de même en ce qui concerne la foi. La vie spirituelle est comparé à un édifice. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, le Seigneur nous révèle dans ce passage le premier fondement de la foi chrétienne qu'il faudra poser avant de construire l'édifice qui est notre vie chrétienne. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, la Bible déclare: car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia! Donc, dans ce passage, la Bible nous révèle que le premier fondement à poser dans la foi chrétienne, c'est la personne de Jésus-Christ. Ce principe est également confirmé dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 2 à 6. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Donc, lorsque l'apôtre Pierre parle de la pierre angulaire, lorsqu'il cite cette écriture, en fait, il se réfère au prophète Esaïe, qu'il a dit en prophétie, parlant de Jésus-Christ, lorsqu'il parlait de prophétie messianique, dans Esaïe chapitre 28, verset 16, il est écrit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Veuillez souligner ce mot, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Alléluia. Donc, même depuis l'Ancien Testament, nous voyons clairement que Dieu avait posé le fondement principal de la foi chrétienne avant même que Jésus-Christ n'arrive. Le prophète Esaïe a prophétisé plusieurs fois sur la venue de Jésus-Christ. Et parlant donc de ce Jésus qui devait arriver, il nous révèle que Jésus-Christ est le fondement, la pierre qui a été posée en Sion. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Et celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Donc ne sera jamais confus, comme l'exprime l'apôtre Pierre. Jésus-Christ est donc le principal fondement de la foi chrétienne. Alléluia! Et cela est très important parce que la Bible déclare qu'il n'a été donné dans le ciel et sur la terre aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia! Et beaucoup de religions aujourd'hui enseignent des doctrines qui sont contraires, qui montrent que nous pouvons obtenir le salut, nous pouvons hériter le salut par d'autres moyens, d'où le fameux adage « tout chemin mène à Rome ». Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père, parce que lui seul a déclaré « je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père sans passer par moi ». Alléluia! Donc Jésus-Christ est le seul fondement principal de la foi chrétienne. Et nous ne prions pas un autre que Jésus-Christ. Nous ne prions pas Marie. Nous ne prions pas les saints. Nous n'adorons pas le pape. Nous ne proclamons pas de louanges en honneur de quelqu'un d'autre. Seul Jésus-Christ est seul digne de recevoir dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Parce qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Il est celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour le pardon de l'humanité, pour le pardon de nos péchés. Il est le seul qui est descendu aux enfers, qui a dépouillé les dominations, les autorités, les princes, selon les puissances des ténèbres, et qui les a publiquement livrés en spectacle. Il est le seul qui a affronté Satan et toutes les puissances d'enfer et qui a arraché des mains de Satan les clés du séjour des morts. La Bible déclare que ce jour même, les tombeaux des saints se sont ouverts et plusieurs saints sont apparus au plus grand nombre dans la ville et dans les contrées. Alléluia! Jésus est le seul qui est descendu aux enfers. Le même qui est descendu est le même qui est remonté. Et le même qui est remonté est celui qui a fait des dons aux hommes. Alléluia! Il est remonté, il est ressuscité, car si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi se révèle. Alléluia! Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et la foi chrétienne est fondée sur la personne de Jésus-Christ parce que Jésus est vivant. Alléluia! La Bible déclare qu'il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et il reviendra nous chercher. Alléluia! Afin que là où il est, nous aussi, nous y soyons. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18, la Bible déclare que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia! Jésus répondant à la parole dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia! Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, beaucoup de religions, notamment la religion catholique, se servant de ce passage, prétend que Pierre, donc l'apôtre Pierre, est le fondement de l'église et donc de la foi chrétienne. Et par conséquent, donc Pierre, Saint Pierre, peut être adoré, peut être prié, et que Saint Pierre, comme la Bible déclare que Jésus a dit, il a remis les clés du royaume entre ses mains, donc c'est lui qui ouvrira le royaume et celui qui le refermera, qui nous fera entrer. C'est une hérésie. Parce que lorsque Jésus dit, tu es Pierre, et si c'était Pierre, je bâtirai mon église, en fait, c'est simplement un jeu de mots. Pierre, le premier Pierre de quel il s'agit bien de Pierre, l'apôtre Pierre. Il dit, tu es Pierre. Mais lorsqu'il dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, il parle de la pierre, la révélation, parce qu'il dit, tu es Pierre. Mais sur cette pierre que tu viens de recevoir, car ce n'est pas la chair, le sang qui te l'ont révélé, cette pierre dont Esaïe a parlé dans le livre d'Esaïe, chapitre 28, verset 16, la pierre angulaire qui est le fondement à Sion, la pierre éprouvée, la pierre qui est solidement posée. Sur cette pierre qui est le fondement de la foi, je bâtirai mon église. Alléluia. Donc Jésus ici est en train de parler de la pierre qui est simplement la personne de Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Mais qui est devenu la principale de l'angle. Alléluia. Donc Jésus-Christ est le fondement de la foi chrétienne. Et la Bible déclare que lorsque nous bâtissons sur le fondement, car Jésus a bâti son église sur cette pierre, la Bible déclare que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Et donc, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre notre vie si nous bâtissons notre vie sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et il est fort étonnant de constater aujourd'hui, malheureusement, que beaucoup de chrétiens vivent sous la souffrance, ils vivent sous l'échec, ils vivent sous l'emprise des puissances des ténèbres, ils vivent dans la défaite, ils vivent sous le joug de la maladie, sous le joug de la malédiction. Alors que la Bible déclare que si notre vie est bâtie sur le roc, qui est le fondement Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alléluia! Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Rien ne pourra nous nuire. Et Jésus le dit, les portes d'enfer ne prévaudront point contre mon église, parce qu'elle est fondée sur le véritable fondement qui est Jésus. Alléluia! Et la dernière fois, l'évangéliste Victor vous a parlé de l'identité et l'autorité du croyant. C'était un enseignement très important et je l'ai écouté. Un enseignement qui a été très bien fait. Parce que vous vous rendez compte que nous sommes participants de la nature divine de Christ. Christ qui est en fait l'entité divine, qui est la personne divine de Jésus-Christ, fils de l'homme. Parce que Jésus est le fils de l'homme, mais Christ est le fils de Dieu. C'est-à-dire la partie, l'entité de Christ, l'entité de Jésus qui est à l'image de Dieu, qui est à la ressemblance de Dieu. Et donc la divinité elle-même, c'est Christ. Or, la Bible déclare que nous sommes greffés à Jésus-Christ. Au travers de la généalogie de Jésus-Christ, nous sommes participants de la nature divine. Nous faisons partie de son identité. Nous faisons partie, en fait, de la nature de Christ. Et c'est pourquoi, lorsque à Antioche, les gens ont remarqué que les disciples de Jésus-Christ, après le départ de Jésus-Christ, faisaient les choses comme Christ, marchaient comme Christ, ils l'ont appelé chrétien. Ils les ont appelés chrétiens, ce qui est tiré de Christ, parce qu'ils avaient l'image et l'identité de Christ en eux. Et il vivait comme Christ. Il manifestait la nature de Christ. Il manifestait la puissance de Christ. Il manifestait en fait les caractéristiques, la divinité même que Christ lui-même a manifesté lorsqu'il marchait sur la terre. Donc, tout chrétien qui a fondé sa foi sur Christ, sur le fondement Jésus, la Bible déclare qu'il fera des choses que Jésus-Christ a faites, mais qu'il fera des choses même plus grandes que celles que Jésus a faites. Alléluia! Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Nous sommes des Christ. Nous l'avons dit tout à l'heure, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Et l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Nous sommes des Christ. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. En fait, chrétien, ce n'est pas Dieu qui a donné ce nom aux disciples. C'est une appellation purement humaine. Mais comment Dieu nous voit? Dieu ne nous voit pas chrétiens. Parce que chrétien, c'est une étiquette qu'on a collée aux disciples à Antioche. Comme on pourrait par exemple dire aujourd'hui, les fanatiques de Jésus. On vous colle cette étiquette. Donc, quand ils ont vu que les disciples étaient comme Christ, ils faisaient des choses comme Christ, ils ont dit, ceux-là, c'est des chrétiens, donc c'est des Christ. Mais ça, c'est une appellation purement humaine. Dieu ne nous appelle pas chrétiens, Dieu nous appelle des Christ. Nous sommes des Christ sur la terre. Parce que nous avons l'identité de Christ en nous. Et notre vie est fondée sur Christ, qui est le roc, la pierre angulaire. Donc, premier fondement à savoir, la première doctrine que vous devez savoir, c'est que le fondement de l'église, le fondement de la foi chrétienne, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas le pape, ce n'est pas un saint, donc on n'a pas le droit d'adorer toutes ces personnes, ce n'est pas un proche parent de Jésus, ce n'est pas un parent éloigné de Jésus, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un grand homme de Dieu qui aujourd'hui aurait fait des miracles, et qui aurait peut-être en fait expérimenté une grande dimension, une grande expérience de puissance avec le Seigneur. Ce n'est pas un homme, qui qu'il soit, quel qu'en soit son rang, ce n'est même pas un ange qui est le fondement de la foi chrétienne. Mais c'est Jésus. Jésus-Christ seul, le Fils de Dieu, qui est le fondement de la foi chrétienne. Alléluia! Et la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Parce que il n'a été donné dans le ciel et sur la terre aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire très fort amen? Gloire à Dieu. Il est fort malheureux de constater aujourd'hui que, et c'est d'ailleurs de là que naît la religion, parce que Beaucoup de personnes aujourd'hui ont mis leur foi en d'autres choses. Beaucoup de personnes ont mis leur foi aux traditions des ancêtres. Ils ont mis leur foi en une personne, en une idéologie, peut-être philosophique, peut-être scientifique, peut-être politique, peut-être magique, et tout ce qui est en hic que vous pourrez ajouter. Ils ont fondé leur foi sur une croyance, sur une personne, sur un gourou, sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le fondement véritable. Et ils ont dressé autour de ça un décor qui fait qu'aujourd'hui, des autels sont levés de part et d'autre, des adorations sont offertes et sont célébrées en l'honneur de d'autres dieux, alors que la Bible déclare que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et donc on a déplacé le culte qui était orienté vers la personne de Jésus-Christ, on l'a orienté vers une autre personne ou une autre idéologie, une autre croyance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la perdition, croyant être dans le vrai. La Bible déclare que dans les derniers temps, il y en a même qui iront jusqu'à tuer, croyant rendre un culte à Dieu. Ils sont dans l'égarement, croyant être dans le véritable. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas jouir de toutes les bénédictions et de tout l'héritage que Christ a réservé à ceux qui sont réellement fondés dans la foi au véritable Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi malheureusement, ces personnes, bien qu'elles aillent à l'église, bien qu'elles aillent dans leur lieu de culte, en fait, on se rend compte qu'elles sont toujours esclaves de leur propre condition, de leur propre nature, et n'arrivent jamais à être délivrées de leurs problèmes, de leurs maladies, de leurs angoisses, de tout ce qu'ils vivent. Parce que tout simplement, ils ont placé leur foi en une autre personne, un autre Dieu, que la personne de Jésus-Christ. Et je ne parlerai pas seulement des sectes et bien d'autres églises qui sont peut-être à côté, d'autres religions qui sont à côté, mais je parlerai même de certaines personnes qui viennent dans les églises dites chrétiennes, qui pensent qu'en fait ils sont dans le vrai, mais en réalité ils sont à côté. Parce qu'ils croient peut-être que Dieu existe, mais malheureusement, ils n'ont pas fondé leur foi sur la personne de Jésus-Christ. Et donc, ces personnes, en fait, malgré tout ce qu'elles peuvent faire, elles peuvent venir tous les jours à l'église, à toutes les réunions, chanter des cantiques, prier, lire la Bible. Mais ces personnes marchent dans l'échec, marchent sous le joug de la malédiction, marchent dans l'échec. En fait, marchent complètement à côté du plan parfait que Dieu a tracé pour eux. Le plan de paix et de bonheur et un avenir plein d'espérance. Ils sont complètement dans le malheur, dans la souffrance, dans la misère. Et ces mêmes personnes sont toujours les premières à se plaindre dans l'église. Oui, j'ai prié chaque jour, vraiment je jeûne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais Dieu ne m'écoute pas. Est-ce que tu as placé ta foi sur la véritable personne de Jésus-Christ ou tu as placé ta foi ailleurs? Parce qu'on peut être au bon endroit sans être avec la bonne personne. Et c'est pourquoi dans nos églises d'aujourd'hui, malheureusement, on trouve des personnes qui ont encore, malgré tous les messages qu'on peut donner, tous les enseignements qu'on peut donner, qui ont encore des conceptions erronées de la personne de Christ, qui ont encore une fausse image de la personne de Dieu, qui ont encore une fausse conception de la vie chrétienne, parce que ces personnes ne connaissent pas Dieu. Elles n'ont pas reçu la révélation de la personne de Christ. Et il y a des exemples patents dans la parole de Dieu. Les pharisiens, c'était des spécialistes. Ils allaient tout à la synagogue, ils respectaient les principes, tout ce qui a été établi par la loi de Moïse. C'était des véritables croyants. Mais pourtant, quand Nicodème vient voir Jésus de nuit, Jésus lui dit, en vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. En vérité, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux entrer dans la plénitude de sa bénédiction. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et beaucoup sont comme Nicodème. Ils respectent les lois établies par leur église. Ils respectent les lois de Moïse. Ils respectent des principes, des dogmes, des principes religieux. Ils viennent tout le temps à l'église. Ils sont assis sur ces principes. Malheureusement, ils ne peuvent ni voir le royaume de Dieu, ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il leur manque la paix, il leur manque la joie, il leur manque le bonheur. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis, ils sont pas dans la... ils vivent vraiment une vie chrétienne, mais incroyable, quoi. On a l'impression que ce n'est pas des chrétiens, ils sont misérables. Il n'y a qu'à regarder leur visage, ils sont tristes. Ils n'ont pas la joie. Ils viennent à l'église
C'est comme s'ils traînaient sur eux des fardeaux.
Mais pourtant,
apparemment, ils sont au bon endroit. Le problème, c'est que leur foi n'est pas sur le bon fondement. Et beaucoup de personnes qui viennent, par exemple ici en France, j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens en France croient beaucoup à leur culture française et sont beaucoup enracinés dans les principes de leur culture française. Ils croient beaucoup à certaines conceptions, à certaines idéologies, à certaines philosophies intellectuelles, scientifiques, qui font leur valeur depuis peut-être leur jeune âge, qui ont guidé leur vie jusqu'à ce jour, et qui même malgré le fait qu'ils viennent à l'église, n'ont pas compris qu'ils doivent être transformés par le renouvellement de leur intelligence pour déplacer leur foi de leur conception culturelle, et philosophique, scientifique, intellectuelle, afin de la placer sur le bon fondement qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, malgré le fait que vous pourrez leur prêcher la parole, enseigner, etc., ils ne comprendront jamais. Jamais. Parce qu'ils sont encore fondés sur leur propre connaissance, leur propre conception, leur propre culture, leur propre coutume, leur propre tradition, leur propre philosophie. Ils sont encore fondés dessus. Et la Bible déclare que il y a des raisonnements hautains. Il y a des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ. Et donc, toutes ces choses constituent dans leur conscience, dans leur esprit, dans leur être intérieur, comme des murs qui se lèvent et qui les empêchent de connaître la personne de Christ. Et donc, ils empêchent de rentrer dans la plénitude, la bénédiction divine. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça dans nos églises qui viennent, qui sont même réguliers, mais qui en réalité n'ont pas placé leur foi sur la véritable personne de Jésus. Leur foi est ailleurs. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre la doctrine de Christ. Parlez-leur des dîmes, ils ne comprendront jamais. Parlez-leur des offrandes, ils ne seront jamais d'accord. Parlez-leur du principe de l'autorité dans l'église, ils ne seront jamais d'accord. Parce que ces choses vont à l'encontre de leurs valeurs culturelles. La culture française n'accepte pas ça. Ils ne comprendront jamais la doctrine de Christ. Et l'apôtre Paul dit, nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Tous les raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ, toutes ces hauteurs qui ont été érigées depuis des générations durant. Peut-être même c'est un héritage de nos ancêtres, de nos pères. Nous sommes nés là-dedans. Nous avons grandi avec ça. C'est mon identité. C'est ma personne, c'est ma personnalité. C'est ce que je suis. Les Français sont des natures, excusez-moi. Les Français sont des natures révolutionnaires et très rebelles. En France, pour dire qu'il fait froid, on ne dit jamais il fait froid. On dit il ne fait pas chaud. C'est une expression. J'ai demandé à une Française, mais pourquoi vous dites ça? Elle dit c'est une expression de mécontentement. Il ne fait pas chaud. C'est dans la culture française de contester, de manifester, de se rebeller, de révolutionner. Il y a eu combien de révolutions ici en France? Ils sont allés jusqu'à couper la tête du roi. Donc c'est ancré dans la culture française. Donc lorsqu'un Français se convertit, il a besoin que ces forteresses qui sont dans sa conscience, érigées dans son mental, dans son psychisme, que la Bible déclare que ce sont des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ, que ces choses-là soient brisées par le pouvoir de la parole de Dieu. Alléluia! Que ces choses soient déracinées, que ces choses soient ôtées. Il a besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de déplacer sa foi de là où elle était pour la placer sur la personne de Christ. À partir de ce jour, elle connaîtra le véritable épanouissement que doit connaître tout enfant de Dieu. Alléluia! Et l'apôtre Paul, avant d'être apôtre Paul, Saul, vous connaissez son histoire. Il était enraciné dans sa culture juive, enraciné dans ses conceptions, enraciné dans ses idéologies, enraciné dans ses doctrines. Il croyait même rendre un culte à Dieu lorsqu'il tuait des chrétiens. Il persécutait l'église. Il avait sa conscience tranquille. Il se disait qu'il fait la volonté de Dieu. Malheureusement, sa foi était ailleurs. Elle n'était pas sur la personne de Christ. Elle n'était pas fondée sur la personne de Christ.
Il a fallu que ce Saul aille sur la route de Damas. Et que là, miraculeusement, le Seigneur Jésus-Christ lui-même se révèle à lui. Et là, sur la route de Damas, la Bible déclare qu'il entend une voix qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, jusqu'à présent, il croyait rendre un culte à Dieu, il ne savait pas qu'il persécutait Jésus. Sa foi était à côté. Elle n'était pas sur le bon fondement. Et qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que Saul donne sa vie à Jésus-Christ. Et lorsque Barnabas, qui a prié pour lui, l'a imposé les mains, la Bible déclare que ce qui s'est passé dans ses yeux, des écailles sont tombées de ses yeux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, Saul était aveuglé. Il était aveuglé. Et donc, il ne savait pas. Il était dans l'ignorance. Il était aveuglé par ses propres conceptions, par ses idéologies, par ses traditions, les traditions de ses pères et toute la loi qu'il observait, qu'il croyait rendre un culte à Dieu. Il était aveuglé par toutes ces choses. Il était aveuglé par un esprit d'aveuglement. Il a fallu que les écailles tombent de ses yeux pour qu'il ait la révélation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et depuis ce jour, Saul a déplacé sa foi de toutes ses traditions et les traditions de ses ancêtres et de ses fausses conceptions qu'il avait. Il a placé sa foi sur le véritable fondement qui est Christ Jésus. Alléluia! Et depuis ce jour, Saul, son nom a changé. Il est devenu Paul. Et il a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. Et le seul apôtre qui a été ravi jusqu'au 7e siècle. Alléluia. Et qui a fait des expériences avec Dieu que même les autres apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ n'ont pas connu. Donc, en d'autres termes, il y a la révélation qui l'a fait accéder à la connaissance de Dieu. Et là, il a reçu la révélation de l'image parfaite de Dieu. Par révélation. Donc, si notre foi n'est pas fondée sur la personne de Jésus, nous n'avons pas la véritable révélation de Christ. Donc nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne le connaîtrons jamais et ne pourrons jamais rentrer dans le plein épanouissement que Dieu a prévu pour nous. Et nous ne pourrons jamais connaître le plan parfait que Dieu a prévu pour nous. Un plan de bonheur, un plan de bonne santé, une vie d'abondance, une vie de prospérité, une vie vraiment de plein épanouissement, une vie de réussite, une vie de pleine santé et non de maladie, une vie de réussite et non d'échec. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'église vivent sous le joug de la servitude tout simplement parce qu'ils n'ont pas placé leur foi sur la véritable personne de Christ. Leur foi est ailleurs. C'est la première doctrine fondamentale que vous devez retenir. La foi chrétienne, elle n'est fondée nulle part et sur nulle personne d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! 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 Je ne vous sens pas. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur très fort? Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Alors, je parlais des sept doctrines fondamentales de la Bible. Et là, nous venons d'énoncer la première doctrine. Et les six autres doctrines, nous allons les lire, en fait, dans le livre de Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. Je souhaiterais que vous puissiez simplement écouter parce que je vais faire beaucoup de lectures et pour aller vite, je peux faire lire à votre place. Vous écouterez et au fur et à mesure, vous prendrez des notes. Et comme j'ai tendance à distribuer effectivement le support de cours, vous pourrez prendre le support de cours après. Et pour ceux qui veulent le CD, pourront prendre le CD également après. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2, il est écrit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renouvellement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Donc, dans ce passage, l'apôtre Paul, parce que je suis de ceux qui croient que c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, l'apôtre Paul nous révèle six doctrines fondamentales de la Bible, de la foi chrétienne. Donc, nous allons ajouter à la première doctrine que nous avons vue tout à l'heure. Donc, en plus du premier fondement que nous avons établi, ajouter ces six autres. Donc, le deuxième fondement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le troisième fondement, c'est la foi en Dieu. Le quatrième fondement, c'est la doctrine des baptêmes. Le cinquième fondement, c'est la doctrine de l'imposition des mains. Le sixième fondement, c'est la doctrine de la résurrection des morts. Le septième fondement, c'est la doctrine du jugement éternel. Selon Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. Alléluia. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Alléluia. Vous ne me suivez pas? Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renouvellement aux œuvres mortes. 1. La foi en Christ. 2. La doctrine des baptêmes. 3. De l'imposition des mains. 4. De la résurrection des morts. 5. Du jugement éternel. 6. Donc, plus ce qu'on vient de voir, ça fait 7. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Donc, le deuxième fondement que j'aimerais énoncer ici, c'est que la foi chrétienne est aussi fondée sur le renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. Jean-Baptiste a été le premier et le plus grand évangéliste à avoir prêché sur la repentance. La Bible déclare que Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Il est venu aplanir les sentiers, rabaisser les collines, combler les ravins. C'est-à-dire qu'il est venu préparer les cœurs à recevoir celui qui devait être le plus grand, celui qui, lui, ne baptisait pas d'eau pour amener la repentance, mais qui, lui, baptisait du Saint-Esprit et de feu, et qui était plus puissant que Jean-Baptiste, et duquel Jean-Baptiste pouvait dire « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Alléluia! Donc, Jean-Baptiste a prêché sur le baptême de la repentance. Il a dit, repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Pour le pardon de vos péchés. Fuyez la corruption, hypocrite, race de vipères. Fuyez la corruption. Et la Bible déclare que de foules nombreuses venaient au Jourdain pour être baptisées par Jean-Baptiste. Et même Jésus-Christ lui-même, il est venu pour s'identifier à l'homme, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé la repentance. Mais c'est quoi la repentance? Selon la traduction du mot grec, repentance, ça veut dire métanoïa. Métanoïa veut dire changement de mentalité, changement de conception, changement d'avis. Contrairement à ce qu'il nous a enseigné dans beaucoup d'écoles théologiques ou encore dans beaucoup d'églises, la repentance n'est pas un état émotionnel. Ce n'est pas le fait de pleurer, d'être triste, d'avoir du remords qui signifie repentance. Quand bien même la repentance peut être suivie de remords, de tristesse, de regret, c'est-à-dire d'un état émotionnel. La repentance est avant tout une décision et non une émotion. Alléluia! C'est une décision de changement de mentalité, de conception, d'idéologie, changement d'avis, changement de position. Je marchais dans une direction, changement de direction. Je me tourne vers une nouvelle direction. Or, le fait de changer de direction implique au préalable le fait d'avoir longuement réfléchi. D'où le baptême de la repentance peut être défini par Pierre comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Parce que nous ne pouvons pas nous faire baptiser sans avoir mesuré la portée de l'acte que nous posons. D'où le fait que nous n'acceptons pas dans notre confession de foi le baptême des enfants. Parce qu'un enfant ne peut pas avoir la bonne conscience de réfléchir sur sa propre destinée et donc de prendre une décision de changer la vie. Il n'y a qu'une grande personne qui soit capable de le faire. La repentance est avant tout une décision qui est le fruit d'un engagement, d'une bonne conscience envers Dieu et qui se matérialise par l'acte du baptême. Nous verrons tout à l'heure la doctrine des baptêmes. Mais attention, il y a la vraie repentance et il y a la fausse repentance. Judas Iscariot, après avoir livré Jésus-Christ, la Bible déclare que Judas
a été pris de remords. Il a été pris de regrets. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Est-ce qu'il a demandé pardon? Non. Il est allé se pendre. Et l'apôtre Paul pouvait dire, nous allons le lire tout à l'heure, qu'il y a une tristesse qui mène à la mort. Il y a une tristesse qui mène à la repentance, à la vie, au salut. La véritable repentance ne conduit pas à la mort. La véritable repentance conduit à la vie. La véritable repentance produit le pardon. La véritable repentance produit en fait la conversion du cœur. La véritable repentance produit la nouvelle naissance. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, contrairement à Judas, après avoir renié Jésus, a été également pris de remords. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas pendu. Il a demandé pardon. Il est revenu vers le Seigneur. Il est revenu vers le Seigneur. Et il déclare qu'il a été le premier apôtre. Lorsque le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, est descendu le jour de la Pentecôte, à prendre la parole devant plus de 3000 personnes et annoncer l'évangile avec puissance et autorité. Et ce jour, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et l'église primitive fut née. Alléluia! Voilà la véritable repentance. Elle conduit au salut. Lisons quelques versets ensemble. Dans Actes, d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. La Bible déclare que je me réjouis, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Alléluia! Tandis que la tristesse du monde produit quoi? La mort. Judas Iscariot. Iscariote. Il est allé cuire des carottes. Malheureusement, en enfer. Actes chapitre 2, verset 38. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc la repentance produit quoi? Le pardon de nos péchés. Repentez-vous, Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc la repentance nous conduit à quoi? À la conversion. Et la repentance permet que nos péchés soient effacés. Pas seulement pardonnés, mais effacés. Et elle nous conduit à la conversion. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc la repentance nous conduit au baptême. On ne peut pas se faire baptiser si on ne s'est pas repenti. C'est un acte de repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu chapitre 3 verset 8. Donc lorsque nous sommes repentis, la Bible déclare que la repentance nous amène à porter du fruit et du bon fruit. Une repentance sans fruit n'est pas une repentance véritable. La vraie repentance doit nous amener à porter du fruit. Est-ce que lorsque le fils prodigue est revenu vers son père, il a demandé pardon à son père, est-ce qu'il est encore retourné garder les cochons là où il était? Non. Il est resté avec son père. La véritable repentance selon Dieu, dont on ne se repent jamais, mais qui nous conduit à porter du fruit. Lorsque quelqu'un se repent de quelque chose et qu'il revient sur cette même chose, en réalité, elle ne s'est pas repentie. Elle a pleuré, c'est vrai. Elle a eu une tristesse, un état émotionnel momentané, sous peut-être l'effet d'une louange, une adoration tellement bien faite avec vraiment une onction vraiment du Saint-Esprit qui s'est répandu, avec une très belle prédication sous l'effet vraiment du moment. Son cœur a été touché. Son cœur a été touché. Simplement. Il a pleuré. Il a regretté. Seigneur, vraiment, je ne ferai plus jamais cela. Non, Seigneur, c'est fini avec Satan. Je renonce à Satan. Je renonce au péché. Alléluia. Amen, amen. Une semaine, deux semaines après, la même personne retourne dans son péché. Elle ne s'est pas repentie. Elle a pleuré simplement. Elle a regretté, mais ne s'est pas repentie. Parce que la véritable repentance n'est pas une émotion, mais une décision. Alléluia! Il a regretté, mais il n'a pas pris de décision. Et on a beaucoup de chrétiens comme ça dans nos églises, malheureusement. Quand le pasteur prêche, tu entends, alléluia! Prêche, frère! C'est la vérité! Nul semblable n'est vrai! Mais, quand on voit leur vie quotidienne, il n'y a aucun changement. Or, repentance veut dire métanoïa. Ça veut dire changement. Changement de mentalité, changement de conception, changement de position, changement d'avis, changement de comportement. Et le problème dans nos églises, c'est qu'aujourd'hui, on est rempli de plusieurs croyants, je dirais croyants ou adeptes, qui sont touchés par la parole, touchés par l'onction du moment, mais en réalité, qui ne sont pas repentis. Ils sont touchés dans leur cœur, mais ils n'ont pas donné leur cœur. Ils n'ont pas changé. Ils sont les mêmes. Et ainsi, malheureusement, dans plusieurs églises, au lieu d'en faire des églises chrétiennes avec des chrétiens, de véritables pierres vivantes, on en fait, en fait, des refuges de plusieurs personnes en déficit émotionnel. C'est-à-dire des gens qui... Ah, Seigneur, j'avais besoin de pardon. Ah, Seigneur. Et puis à la fin du culte, ah, vraiment, je sens vraiment que j'avais un fardeau, le Seigneur m'a pardonné. Ah oui, la louange était vraiment formidable. Ah, l'adoration c'était vraiment... Le message, oulala, le pasteur André. Alors là, vraiment, je crois qu'il n'a pas dormi à terre. Il a dormi au ciel cette nuit. Parce que là, vraiment, le message qu'il a délivré ce matin, oh, c'était formidable. Alléluia, après on vient dire au pasteur, oh, pasteur, vraiment, c'était super. Ton message m'a fait du bien, vraiment, pasteur. Et il s'en va. Il est tout content, c'est la joie du moment. Ah non, à partir de ce jour, vraiment, désormais, moi, c'est comme ça que je vais marcher. C'est terminé. C'est fini. Mais malheureusement, quelques temps après, la même personne se retrouve dans sa position, dans sa conception. Il n'y a pas eu repentance. Il y a eu remords. Simplement, il y a eu des pleurs peut-être, mais il n'y a pas eu repentance. La véritable repentance conduit à un changement. Alléluia. Dites changement. Changement. Donc, tu n'as pas encore changé, tu t'es pas encore repenti. Et il y a plusieurs aspects de notre vie dans lesquels nous avons besoin de repentance. Alléluia. Il y en a beaucoup. Et le Saint-Esprit seul est capable de nous le révéler. Le seul est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Et dans nos cœurs, nous pouvons savoir les points sur lesquels nous avons besoin de changement, de repentance. Le troisième fondement, la foi en Dieu. Je me rappelle la foi en Dieu en tant que une relation de confiance avec Dieu. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible déclare que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alléluia. Donc, ici, il s'agit de la foi en Dieu qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire une relation de confiance envers Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais qui n'ont plus d'espérance. Ils viennent, ils s'attendent certainement que, bon, quand le pasteur va prier pour lui, quelque chose va se passer. Bien quand tel frère va prier pour lui, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, en eux-mêmes, personnellement, ils n'ont plus une relation de confiance avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de croire que moi, en tant que chrétien, investi du pouvoir et l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je suis capable de changer les temps et les circonstances dans ma vie. autour de, moi, dans mon environnement. Je suis capable d'influencer mon environnement. Comme l'évangéliste Victor nous l'a enseigné la dernière fois à l'école de disciples, l'identité et l'autorité du croyant, ils ne sont même pas capables de réaliser la portée de leur autorité. Capables de réaliser en fait l'impact de leur identité en tant que chrétien, leur identité en Christ. Ils ne connaissent même pas leur identité en Christ. Donc, ils ont du mal à faire confiance en Dieu. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils croient que Dieu existe. Mais la Bible déclare que les démons aussi croient que Dieu existe. Mais ils tremblent. Ils n'ont pas la foi véritable. Ils viennent à l'église. Ils chantent des cantiques. Ils peuvent à la fois avoir une foi momentanée. Sur le coup, c'est bon, ça marche. Mais après, ça rechute, ça tombe. Ils n'ont pas leur foi fondée. La Bible déclare que fais de l'éternel tes délices, il te reste autant que de recommande ton sort à l'éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Alléluia! Quand est-ce qu'il agit? Quand tu mets en lui toute ta confiance. Il y en a qui n'ont pas le cœur tout entier à Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'agit pas dans leur vie. Ils ne croient pas en Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Sans la foi en Dieu, il est impossible de rendre un culte agréable à Dieu. Sans la foi en Dieu, il est impossible de faire des miracles. Sans la foi en Dieu, il est impossible de rentrer dans les plans parfaits de Dieu pour notre vie. Sans la foi en Dieu, il est impossible d'expérimenter la vie de la plénitude que Dieu nous réserve, le bonheur parfait. Sans la foi en Dieu, il est impossible de sortir du joug de l'esclavage de Satan et de pouvoir vivre une vie chrétienne de plein épanouissement. Il y a des païens qui croient aussi que Dieu existe. Mais quelle est la différence entre leur foi et notre foi? La différence réside dans le fait que nous, contrairement à eux, avons une relation personnelle avec Dieu. Et pas seulement une relation, mais une relation de confiance. C'est-à-dire que nous avons toute notre confiance en lui, notre cœur tout entier en lui. Nous attendons à lui. Comme le psalmiste a pu dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Je m'attends à Dieu. Il est mon recours, il est mon réconfort, il est mon appui, il est ma forteresse, il est mon rocher, il est ma haute retraite. Alléluia! La foi qui nous amène à fonder notre confiance sur les promesses de sa parole. Crois que réellement les promesses que Dieu a faites sont miennes. Je m'approprie de ces promesses. Je crois et je les expérimente. Parce que c'est des promesses qui sont fondées sur une alliance nouvelle. Parce que l'alliance est avant tout une relation avec Dieu. Donc la foi en Dieu. Troisième doctrine, troisième fondement, la foi en Dieu. Quatrième fondement, nous allons évoluer, la doctrine des baptêmes. Dans Matthieu chapitre 3 verset 11, il est dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Actes chapitre 2 verset 4, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Dans ces deux passages, nous remarquons qu'il y a deux types de baptême. Il y a le baptême d'eau. Le baptême de la repentance, donc le baptême de Jean-Baptiste qui conduit à la repentance, comme on l'a vu tout à l'heure, au pardon des péchés, au salut, à la conversion de nos cœurs, à la nouvelle naissance. Et il y a le baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est un seul baptême. C'est quoi la différence? Le baptême de la repentance. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le Saint-Esprit. Le baptême de la repentance prépare nos cœurs à recevoir le baptême du Saint-Esprit et le feu. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend, il ne descend pas tout seul. Le jour de la Pentecôte, la Bible déclare, le Saint-Esprit est venu sur eux. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'entre eux, sur chaque tête. Alléluia! Et la Bible déclare dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le baptême d'eau conduit au pardon, au salut, à la repentance, à la conversion, à la nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit attire la puissance de Dieu sur notre vie et le feu de Dieu sur nous pour l'exercice du ministère. Il est important de connaître que le baptême du Saint-Esprit est tout autant important que le baptême d'eau, parce que les deux sont liés et sont complémentaires, dans la mesure où Jean-Baptiste vient préparer le chemin du Seigneur, et la Bible qui dit, il y a un qui vient après moi, il est plus puissant que moi, moi je vous baptise d'eau et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, alléluia. Or, la Bible déclare dans ce passage que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Or, Jean-Baptiste, quand il déclare que préparer le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers, combler les ravins, abaisser les collines, c'est une préfiguration et une image du cœur de l'homme qui doit être raboté, qui doit être aplani, qui doit être nettoyé. Les collines doivent être abaissées, les hauteurs doivent être abaissées, les mauvaises conceptions doivent être abaissées, et toute forteresse et tout raisonnement hautain qui se dresse contre la connaissance de Dieu et qui nous empêche de connaître Christ doivent être rabaissés. Alléluia! Les pensées des hommes doivent être rabaissées. Les traditions des hommes doivent être rabaissées. Les coutumes humaines doivent être rabaissées. Les faux raisonnements doivent être rabaissés. Et toute forme de barrière qui empêche l'effusion du Saint-Esprit doivent être rabaissées. Et ça, c'est l'œuvre de la repentance. Et ce n'est que lorsque nos cœurs auraient été préparés de la sorte, la Bible déclare que ce n'est qu'en ce moment que vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia! D'où il est important et normalement et logique que lorsqu'on est baptisé d'eau, en fait, qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples, dans les Actes d'apôtres, lorsqu'ils arrivent dans certains endroits, ils posent la question: Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous avons été baptisés du baptême de Jean-Baptiste. Oui, mais est-ce que vous avez été baptisés du baptême du Saint-Esprit? La Bible déclare que là, ils ont dit non. Et les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils imposèrent les mains et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Alléluia! Le plein évangile, la véritable parole de Dieu, le véritable évangile prêche la repentance, prêche le baptême de Jean-Baptiste et prêche le baptême du Saint-Esprit. Une église qui ne prêche pas ses fondements n'est pas une véritable église, parce qu'elle n'est pas enracinée sur les fondements véritables de la foi chrétienne. Une église qui ne croit pas à la plénitude du Saint-Esprit n'est pas une église chrétienne. Je suis désolé. Elle est une église dogmatique, religieuse, mais n'est pas dans la foi et dans la plénitude de la foi chrétienne. Et l'église primitive elle-même était enracinée sur ses principes, était fondée sur ses principes. La Bible déclare qu'il y a une grande grâce reposait sur eux. Et le Seigneur ajoutait chaque jour au nombre de ceux qui étaient déjà là, des âmes qui étaient sauvées. Alléluia! Et la Bible déclare que des miracles, des prodiges se faisaient au travers des mains des apôtres, parce qu'ils étaient fondés sur la véritable doctrine de Christ, la saine doctrine. Et moi je crois au baptême du Saint-Esprit parce que je l'ai expérimenté. Et partout où je vais, je prêche l'évangile, je dis toujours aux gens: si tu as reçu Jésus-Christ Nazareth dans ton cœur comme sauveur Seigneur, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et ensuite, je lui parle du Saint-Esprit. Qu'il ait l'évangile au complet. Qu'il n'ait pas l'évangile à moitié. Et le problème avec nos églises aujourd'hui, c'est que beaucoup d'églises font des disciples, des adeptes, qui ont reçu l'évangile à moitié. Et donc, ils vivent une vie chrétienne à moitié. Ils n'ont pas reçu le plein évangile. Ils vivent la vie chrétienne à moitié. Et on en fait des nouveau-nés, mais des nouveau-nés prématurés. Et qui vont marcher dans la vie chrétienne en boitillant avec des infirmités. Parce qu'ils ont des manques dans la constitution même de leur foi chrétienne. Et donc, par conséquent, ils marcheront bancal. Ils ne seront jamais droits. Et ça va être difficile après de les redresser parce qu'un arbre, vraiment, qui est déjà tordu, il est difficile au stade d'arbre de le redresser. Parce qu'il a tellement grandi dans cette condition que ça devient difficile. C'est pourquoi nous avons des casse-têtes chinois dans nos églises, pasteur. A beau parler, a beau expliquer certains principes rudimentaires de la parole de Dieu, ils n'arrivent pas à les comprendre. A beau expliquer, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils ont reçu l'évangile à moitié. Ils ont fait escale, ils sont d'abord passés par l'église catholique. Avant d'être à l'église catholique, ils étaient d'abord athées. Donc, ils avaient déjà à la tempe gauche toutes les conceptions de l'athéisme. Et quand ils sont dans le catholicisme, ils ont adoré la Vierge Marie, le Pape, le Saint-Pierre, les saints, tout le reste, les messes de Kiem, la pénitence, etc. Et ils sont sortis de là, ils sont allés à l'église protestante. Après, ils sont allés à l'église protestante réformée. Après, ils sont allés chez les baptistes. Après, les pentecôtistes. Après, les méthodistes. Après, les rudistes. Après, les darbistes. Après, tout ce qui est aniste. Les adventistes. Après, quand ils reviennent dans les églises dites de réveil, oh pasteur, c'est grave. Là, ça devient compliqué. Il est même préférable d'aller chercher un païen dans le monde, de l'amener en Christ et de vraiment, comme un nouveau-né, toi-même, de l'éduquer. Parce que ces genres de personnes-là, c'est difficile de le redresser après. Il a eu une mauvaise conversion. Il a eu une mauvaise base. Ça devient difficile. Quand tu l'enseignes sur la dîme, il va dire le pasteur veut s'en mettre plein les poches. S'il veut avoir de l'argent, il n'a qu'à aller travailler. Il ne comprend pas la portée spirituelle de ces choses. Tu vas l'enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, il va dire c'est une secte. Tu vas l'enseigner sur l'autorité, oh c'est un gourou, ça devient une secte. Oh, 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 oh. En tout bon français, il va dire, il va faire ça. Il claque la porte. C'est difficile. Parce qu'à la base, il y a des problèmes. Quand tu vas lui parler du péché, il va dire, il veut contrôler la vie des gens. Ce pasteur n'est pas sérieux. Il veut s'immiscer dans ma vie privée. Mais pour qui il se prend? Il veut porter atteinte à ma liberté personnelle. Il veut porter atteinte à mon éthique. Il veut toucher à ma personnalité. Non, 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 non. Je ne peux pas rester dans une telle église. C'est une secte. Je m'en vais. Parce qu'à la base, il n'y a pas eu véritablement repentance, il n'y a pas eu véritablement conversion, il n'y a pas eu vraiment le véritable évangile. Il n'a pas reçu dans la totalité. Mais nous avons besoin de prêcher le véritable évangile. Alléluia. Et nous voulons voir de véritables conversions. Alléluia. De véritables repentances et de conversions radicales. Alléluia. Les gens qui sont engagés, qui se repentent de leurs péchés, qui passent par les eaux de baptême, qui sont baptisés de cet esprit et qui marchent sur le feu de l'esprit et qui embrasent la ville de Bègle, qui embrasent la ville de Bordeaux et qui embrasent la nation de la France. Alléluia. On a besoin de gens qui marchent, qui imposent les mains aux malades, les malades sont guéris, qui chassent les démons, qui ressuscitent les morts au nom de Jésus. Alléluia. On a besoin de gens qui manifestent la puissance de cet esprit. L'apôtre Paul dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs, la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance. Car voici le miracle qu'on peut sur son cœur. En mon nom, ils imposeront les malades, les malades seront guéris, chasseront les démons. Mais des chrétiens qui ne vivent pas ça, c'est des chrétiens qui n'ont pas reçu le plein évangile et qui sont convertis à moitié. Malheureusement. Et si nous voulons une église de réveil, si nous voulons un réveil, il faut qu'on arrive à produire de tels chrétiens. C'est seulement ces chrétiens qui sont réellement nés de nouveau, qui ont reçu le plein évangile, qui vont bouleverser la nation française, qui vont apporter le réveil en France, qui sont enracinés dans les véritables fondements de la foi chrétienne.
Nous allons évoluer parce qu'il ne me reste plus assez de temps. La doctrine de l'imposition des mains. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est encore un sujet à controverse. La véritable foi chrétienne croit à l'imposition des mains. Dans le livre de Genèse, chapitre 48, verset 14 à 16, Joseph apporte ses fils à son père, donc Jacob. Et la Bible déclare qu'il étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Ce qui se passe, c'est que lorsque Joseph apporte ses fils Éphraïm et Manassé, la Bible déclare qu'Éphraïm était le plus jeune. Donc, normalement, selon les principes, Israël, donc Jacob devait poser sa main droite sur Manassé, qui était le plus grand. Et il devait poser sa main gauche sur Éphraïm. Mais ce qui se passe, c'est qu'il inverse. Il pose sa main droite sur le plus jeune, donc Éphraïm, et il pose sa main gauche sur l'aîné, qui est Manassé. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Joseph, qui assiste à la scène, pense que son père s'est trompé. Et il va tenter de changer de bras, de prendre le bras droit pour mettre sur le nez et inversement. Mais fort est de constater que le vieux Israël reste sur sa position. Il y a une révélation importante dans cet endroit. La Bible déclare que c'est avec intention qu'il l'a fait. En d'autres termes, l'imposition des mains obéit à une direction divine. Il était convaincu que c'est comme ça qu'il devait faire les choses. Son insistance à cette position montrait clairement que Jacob, Ismaël, Israël, autant pour moi, était en train de faire quelque chose de réfléchi, d'intention. C'était avec intention qu'il le fait. Donc, en fait, à ce moment-là, il était en train d'obéir à une direction divine. Donc, malgré le fait que Joseph voulait changer de bras, il restait sur sa position parce qu'il savait que c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il obéissait à une direction divine. L'imposition des mains obéit à une direction divine. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il n'imposait pas les mains à n'importe qui, n'importe comment. L'imposition des mains obéit à une direction divine. Et la pratique de l'imposition des mains est utilisée, est faite pour, premièrement, bénir. Et nous voyons ici que Israël bénit. Et quand il bénit, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère. La Bible dit que, il dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, vous voyez, c'est toute son histoire, son héritage qu'il transfère. Que ce Dieu-là bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères. Il transfère son identité, il transfère son histoire, il transfère son héritage. Nombre, chapitre 27, verset 18 à 20. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité. En imposant les mains, tu rends la personne participant de ta dignité. Il y a un transfert d'autorité, il y a un transfert de pouvoir, il y a un transfert de dignité, il y a un partage du règne que tu possèdes, que tu as, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il y a un transfert de crédibilité. Deux Rois, chapitre 13, verset 15 à 17. Élisée lui dit, prends. Et d'ailleurs, même avant d'aller à Deux Rois, nous voyons dans Deutéronome chapitre 34, verset 9,
Elle déclare que lorsque Moïse a fini d'imposer ses mains sur Josué, dans Deutéronome, nous voyons l'impact de l'imposition des mains de Moïse sur Josué, de sorte que Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Alléluia! Et les enfants d'Israël, lui, obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Transfert d'autorité. Par imposition des mains. Deux Rois, chapitre 13, verset 15 à 17. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Et Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Élisée, qui était un prophète, transfère une onction au roi. C'était l'onction de la délivrance. Parce que cette flèche, c'était la flèche de la délivrance du peuple d'Israël. Donc il a fallu que le prophète se mette à côté du roi, qu'il prenne les mains du roi, qu'il impose ses mains et qu'il transfère une onction. Et lorsque le roi devait tirer là, la flèche devait aller tout droit. Et qu'est-ce qui se passe? Lisons la suite. Il tira, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu abattras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Donc, la flèche qu'il tire est une flèche de délivrance pour abattre les Syriens. Mais le roi n'avait pas l'autorité et l'onction pour le faire. Il a fallu qu'un homme de Dieu, Élisée, revêtu de l'onction, la puissance de Dieu, pose ses mains sur lui pour lui transférer l'onction, de la puissance, de la délivrance, de la victoire. C'est pourquoi, lorsqu'un homme de Dieu impose les mains sur quelqu'un qui est lié, qui a besoin de délivrance, automatiquement, Dieu manifeste la puissance. Parce que cet homme est revêtu de l'onction de Dieu. Et donc, il transfère par l'imposition des mains une onction de délivrance. C'est une flèche qui va pour abattre l'ennemi, les Syriens. Alléluia! Dans la vie de la personne. Transfert de victoire. Transfert de délivrance. Et nous voyons que Jésus même a pratiqué l'imposition des mains. Il a prié pour des malades. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On lui priait d'imposer les mains. Il imposa les mains. Selon vous, il a imposé les mains où? Quand on lui a amené le sourd, il a imposé les mains. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les églises qui sont scandalisées lorsque surtout on fait l'exercice du ministère, des dons spirituels. Ils ne comprennent pas pourquoi le pasteur fait telle ou telle chose. Si quelqu'un a mal au dos, on ne peut pas l'imposer la main à la tête. C'est déplacé. Il a besoin de bénédiction, on peut l'imposer la main à la tête, c'est normal. Il a mal à la tête, on l'impose la main à la tête. Mais s'il a mal au dos, on impose la main au dos. S'il a mal au pied, on impose les mains au pied. On communique la puissance de Dieu. On communique la guérison divine. S'il a mal au cou, on tient le cou. S'il a mal aux yeux, Jésus dit, la Bible déclare que Jésus, il met ses mains sur les yeux. Alléluia! S'il a mal au ventre, on met la main au ventre. Bon, maintenant, si c'est un homme qui exerce le ministère et que c'est une femme et que c'est des parties assez délicates, compliquées, sa femme doit exercer le ministère avec lui. Et si cet homme n'est pas marié, eh bien, il doit utiliser une sœur du ministère pour imposer la main à l'endroit où lui ne peut pas imposer les mains. Et en ce moment, lui doit se mettre derrière la sœur et poser la main sur la sœur pour communiquer l'onction. Alléluia! C'est ça. Parce qu'il y a une puissance dans l'imposition des mains. Il y a une puissance dans l'imposition des mains. Et nous voyons dans plusieurs exemples que l'imposition des mains aussi a été utilisée pour communiquer des dons, pour libérer des ministères, pour établir des diacres, pour établir des anciens. Dans les supports de cours que je vais vous donner, vous avez toutes les références. Parce que le truc qui m'est parti ne me permet pas de lire toutes les références. L'imposition des mains est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Alléluia! Alléluia! Accordez-moi encore quelques minutes, je vais finir. Je sais que je suis un peu long aujourd'hui parce que, vous savez, c'est normalement l'objet de tout un séminaire, de cette doctrine de base de la foi chrétienne. Alors moi, je le fais condenser comme ça, en si peu de temps.
Soyez indulgents. Alléluia!
On va bientôt finir. La doctrine de la résurrection des morts. Je ne vais pas trop insister là-dessus. 1 Thessaloniciens 4:16 dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. La foi chrétienne croit à la résurrection des morts. Romains 8:11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia! Apocalypse chapitre 20 verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. La foi chrétienne croit en la résurrection des morts. Christ lui-même est ressuscité. Nous aussi, nous serons ressuscités au dernier jour. Alléluia! Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia! La dernière doctrine, la doctrine du jugement éternel. Jean chapitre 5, verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le jugement éternel, c'est le jugement des méchants, le jugement des pécheurs, le jugement de Satan et ses démons. Je vous dis, et j'attire votre attention, contrairement à toutes les doctrines qui sont enseignées en ce moment, dans des théologies bizarres, des hérésies, aucun chrétien, aucun enfant de Dieu né de nouveau, pardonné, qui marche selon la présence et la sainteté de Dieu, ne comparaîtra au jugement dernier. Alléluia! Aucun enfant de Dieu ne sera jugé le jour du jugement du grand trône blanc. Seuls seront jugés les impies, les démons, les méchants. Aucun chrétien ne sera jugé. Alléluia! Donc si on vous prêche qu'au jugement dernier, il y en a des chrétiens qui vont perdre leur salut, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Parce que le jugement dernier ne concerne pas les chrétiens. Parce que le jugement dernier aura lieu après la résurrection des morts et l'enlèvement de l'église. Donc les chrétiens ne seront plus là. Et quand le Seigneur viendra maintenant pour juger les vivants et les morts, ben, il jugera les morts qui sont morts dans leurs péchés et les vivants qui sont restés dans leurs péchés, qui ne marchent pas selon les voies de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne marchent pas selon le Seigneur. Ceux-là seront jugés. Et il jugera aussi les démons. Il les jettera dans les temps de feu. Voilà pourquoi Dieu se réserve un temps. Il y en a qui disent, pourquoi Dieu laisse Satan faire le mal dans le monde? Il y a des guerres par-ci, par-là. Pourquoi, si Dieu existe, pourquoi Dieu ne fait rien? Ne vous en faites pas. Dieu se réserve un jour. Dites un jour. Un jour où il va juger Satan et tous ses démons. C'est le jugement dernier. Mais aucun chrétien ne comparaîtra au jugement dernier. Les chrétiens auront un autre jugement. C'est le jugement de leurs œuvres. C'est le tribunal de Christ où on va peser tes œuvres. Et là, chacun sera jugé selon ses œuvres et recevra la récompense selon ses œuvres. Ceux qui ont bâti sur du chaume, qui ont bâti sur de la paille, eh bien, leurs œuvres seront consumées, ils n'auront rien. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y en a qui seront, qui auront des maisons mais sans meubles? On rigole un peu. C'est une image. Pour faire comprendre qu'en fait, nous tous dans le ciel, on n'aura pas les mêmes récompenses. On n'aura pas les mêmes couronnes. Il y a tout un tas de couronnes. On fera un enseignement là-dessus. Apocalypse enseigne très bien là-dessus. Et je pourrais vous le faire. Sur le jugement dernier, on en reparlera. Il y a des couronnes de gloire. Alléluia. Et il y en a qui ne recevront pas la couronne de gloire. Parce qu'eux-mêmes sur la terre ont déjà pris toute la gloire. Ils prient pour les malades, malades. Oh, tu as vu. Quand j'ai seulement posé la main comme ça, fire. Il est tombé. Aïe, 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 aïe. Il se glorifie. Il a déjà sa récompense. quand il fait quelque chose comme ça, il faut que tout le monde soit au courant. Il a donné l'argent au pasteur. Oh, il faut que tout bègue soit au courant. Vous savez, la voiture qu'il a achetée là, c'est moi. Je dis, c'est moi. Mais je dis que non. Mais vous savez là, le costume qu'il porte là, c'est moi. Je suis allé, j'ai fait un tour. Oui, mais je dis que c'était mon pasteur. Bon, vous savez. Oh, le pauvre, vous savez. Il a déjà sa récompense. Alléluia. La Bible dit que ce que ta main, droite donne, il ne faut pas que ta main gauche le sache, et vice-versa. Alléluia. Il a descendu. Donc il y en a qui n'auront pas la couronne de gloire. Tu chantes, c'est tellement beau. On dit, ma soeur, tu chantes très bien. Oh, moi, même là, c'est rien. C'est parce qu'elle avait mal à la gorge, en fait, tu vois. Donc, mais quand je suis vraiment en forme, quand je chante, je vous dis que le ciel s'ouvre. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Oui, même là, je n'étais pas en forme. Bon, comme j'ai dormi un peu tard, l'enfant, non. Mais tu verras, dimanche prochain. Il a déjà sa récompense. Alléluia. Il n'aura pas la couronne. Donc, le jugement dernier, c'est pas pour les chrétiens. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est la fin de notre enseignement. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Et nous allons bénir le Seigneur pour ces beaux moments que nous avons passés dans l'enseignement de sa parole.